quelque chose qui peut s'expliquer aussi chez Goya, là encore, hein, vous avez des gens du peuple, cette fois-ci, hein, en train de rire. Alors, il y a, malgré tout, il y a toujours de la vie, même quand il y a la mort. Il y a hein, toujours des corps qui sont traversés par, par une force, par des forces, même si c'est des forces inquiétantes et sombres, ce ne sont pas des fantômes. Le fait qu'ils soient très charnels, que la peinture soit généreuse, qu'ils soient bien campés, il y a des forces vives là-dedans. Même si elles sont sombres, elles sont vives. Et ça, c'est assez typique de lui. Alors, Goya, à la fin de sa vie, donc, il est devenu malade, sans doute la syphilis, qui l'aurait rendu sourd. Et il se retrouve seul, parce que, suite à la guerre d'Espagne menée par les troupes françaises, eh bien, il a perdu un petit peu toute sa clientèle, tout son rapport à la cour d'Espagne, etc. Donc il trouve plus ou moins refuge en France avec des amis, etc. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui est solitaire, qui est sourd, qui est malade, et qui ensuite a été un peu déclassé, qui a un peu perdu son statut, etc. Et puis il se retrouve dans une France qui n'a rien à voir avec, qu'il connaît à peine. Et qui, donc vous avez quelqu'un qui, effectivement, nourrit une rancœur très très claire. Mais ce qu'on verra, c'est que c'est chez Goya, il y avait cette espèce de tension. Elle était présente déjà depuis bien longtemps. Est-ce que c'est sociologique ou personnel? C'est un peu complexe. L'idée de la surditude, surditude, je ne sais pas comment c'est.
Solitude. C'est un nouveau mot, hein. On va proposer.
C'est quand même.
C'est
quand même.
C'est quand même. C'est quand même. C'est quand
même. C'est quand même.
Ah voilà, la surditude. Voilà. Alors, je crois que lui, il était quand même, c'est la surditude. Juste un truc tout bête. Pour deux grands sourds, ils sont quasiment exactement contemporains, c'est Beethoven et Goya. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses qui sont proches chez les deux. La puissance, la solitude, l'énergie incroyable, la joie comme les ténèbres, etc. Il y a vraiment, y compris le rapport d'amour-haine et de frustration, attente et déception par rapport à la Révolution française. Donc vous avez chez deux grands artistes extrêmement puissants quelque chose. Et voilà, ce monde intérieur. Alors, la pénombre ici s'explique aussi, si vous voyez, c'est une sorte de traduction, y compris de l'enfermement. Vous avez chez lui là quelque chose qui témoigne aussi de son enfermement par rapport au monde, tout ce qui est lointain. Puisqu'il y a des témoins, il ne perçoit pas ce qui est lointain, il s'isole socialement. Et on a une sorte de traduction assez. C'est pas la surinterprétation, hein, de son isolement, y compris sensoriel, qui va peut-être surcompenser, y compris par une expressivité de la matière, du geste, des contrastes, etc. Et ça, c'est assez. Je pense que c'est assez juste. Alors là, maintenant, on bénéficie un petit peu de ces nouvelles reproductions jubilatoires. On peut zoomer, il n'y a pas un seul pixel. Moi, ça veut dire, on rentre dans la peinture. Maintenant, si vous faites Wikimedia, parfois, vous avez des images qui font 5 mégas.
C'est des images retraitées, c'est ça?
Non, elles sont prises avec des techniques et des appareils qui ont des millions de pixels. Et parfois, comme par exemple pour le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, etc., c'est des techniques de Google Earth. C'est plusieurs photos qui sont ensuite collées ensemble. Sentier de moirage. Compliqué, parce que si vous faites plusieurs photos, il y a souvent des effets de moirage et de lumière. Donc c'est des technologies extraordinaires qui sont rassemblées et font des photos d'une définition incroyable. Alors, je pense qu'à une bonne distance, avec des super appareils numériques, avec des capteurs extraordinaires, on peut avoir des très bonnes photos, comme c'est le cas ici. Parce que là, et là j'en ai trouvé beaucoup. Donc tant pis, je m'amuserai peut-être à zoomer de temps en temps. Alors là, les vieux mangeant la soupe,
là aussi, Et ça va, mais le vieux, il n'est pas.
Il n'est pas frais.
Pas très bien.
Hein. Ouais, mais par rapport à lui. Hein.
Et vous voyez, c'est relatif. Hein.
Là, ce qui est clair chez lui, c'est qu'on a presque la chair se rapproche du squelette. Ce qui est souple et vivant se rapproche du squelette minéral, dur. Comme si effectivement, il était en train de perdre
la
sensualité, la fragilité, la vie, le sang, les émotions, etc., pour se rapprocher de quelque chose de minéral, de contrasté. Et ça, c'est presque les derniers soubresauts avant la mort. Alors, il y a en même temps un instinct de vie. Parce qu'on a l'impression de leur dire à chaque fois, mais attendez, vous êtes morts. Mais non, ils vivent encore. Donc, même chez les vieilles, en Quétal, elles sont encore quelque part c'est des forces de vie. C'est-à-dire que finalement, peu importe qu'elles soient dans l'état où elles sont, si elles ont encore le goût de se vêtir, de s'habiller, de se regarder, d'être comprises entre elles, quelque part, c'est totalement légitime. De la même manière qu'ici, on mange sa soupe, etc. Et finalement. C'est pour ça que chez Goya, c'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Il y a quelque chose qui est vraiment plus une sorte d'empathie devant le genre humain, y compris dans ce qu'il va avoir de terrible. Alors, Goya est passé, effectivement. Pour voir le genre humain comme ça, il est passé par des connaissances et des confrontations avec les horreurs qu'on verra plus tard. Alors, chez Goya, vous avez les individus qui le fascinent. On voit bien la fascination pour des individus, qui sont hommes, femmes, vieux, etc. Ou jeunes, etc. Mais vous avez aussi une sorte de compréhension, et ça aussi c'est intéressant chez lui, pour le corps social, c'est-à-dire la société. Et il va peindre assez souvent la société comme quelque chose qu'il a envie de traiter. Vous avez chez lui aussi un recul, une conscience assez subtile de sa culture espagnole, y compris qui est en train de changer. On va voir. Plusieurs de ces peintures donnent des phénomènes de masse et de groupe en Espagne qui sont très forts, y compris les processions, les fêtes. Vous connaissez peut-être l'Espagne, etc. C'est quelque chose qui est encore. C'est un pays très. Avec une force sociale, une socialité extraordinaire. Y compris maintenant, parce que quand on va en Espagne, quand on revient en France, on trouve que la France, c'est mort. Hein, parce que on est dehors, sinon, en Espagne, les gens je me suis sur une plage. En Asturie, la plage était très grande, déserte, je m'installe avec les enfants, enfin, etc. Quelqu'un qui vient s'asseoir à côté. France, on dirait chouette de la plage et tout ça. Vient s'asseoir à côté pour discuter, etc. Donc, c'est assez. Et c'était super sympa. Mais alors, en France, on aurait pris 50 mètres de distance pour Et là, elle se met à côté, la plage déserte, parce qu'elle en est bien. Enfin, il y a des choses à se dire ensemble. Quoi. Et c'est, la vraie fête, c'est pas la fête délirante, c'est. Alors, il y a le côté positif, mais évidemment, chez Goya, il y a aussi l'effet de masse qui, parfois, va le terrifier, et qu'on verra parfois dans certaines de ses peintures. Et là, vous avez des individus, ici, mais qui semblent agglomérés, qui ne semblent plus être dissociés. Et c'est pour ça aussi qu'avec Goya, c'est intéressant, cette idée de l'individu et de la société, parce qu'on a vu que chez Chardin, chez Fragonard, c'est aussi des questions qui sont en jeu, ou par exemple, ceux qui voyagent tout seuls, ou Rousseau, le promeneur solitaire, et en même temps il fait le contrat social. C'est aussi le grand enjeu du XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières, c'est quelle est la part de la société, quelle est la part de l'individu. Hein ? Ça débouche à la Révolution française par des phénomènes de masse, mais aussi par la déclaration des droits de l'homme. C'est à la fois individu et en même temps société. C'est repenser totalement l'individu dans la société. Et c'est aussi ça qui va faire naître le romantisme, c'est le décalage parfois entre l'individu dans un corps social dans un monde social. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi en jeu à cette période-là? C'est aussi la crise de la religion. Puisque la religion reliait tous les individus en tant qu'individus à Dieu et en tant que corps social aussi au divin et à la religion qui structurait le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport au Dieu, le rapport à la mort, etc. Si vous enlevez la religion, le problème reste et vous êtes traité et donc éclate quelque part au grand jour. Et là, oui.
Non, c'est orthogonal quand on aura fini, excuse-moi.
Non, vas-y.
Tu expliqueras la composition parce que j'ai.
Alors, justement, là, les compositions de Goya sont assez étranges dans ces grands. On va en voir d'autres. Où il y a des très grands décalages, là aussi. Alors là aussi, il joue sur une grande tension entre le noir et le blanc, entre l'ombre et la lumière. Alors. Il est tellement libre que c'est parfois difficile justement à comprendre. On va en voir d'autres de ces peintures qui sont, même il y en a certaines dont le sujet est quasiment incompréhensible. Parce que Goya sera aussi quelqu'un qui va donc être témoin d'un monde bien réel, y compris dans la vie, la mort, etc. Mais il va être aussi confronté à, et ça aussi c'est pour ça qu'on met Goya parfois dans le pré-romantisme, il sera confronté aussi. Et c'est là aussi la crise du religieux fait qu'aussi les angoisses, les cauchemars, les ténèbres, les fantasmes, la sorcellerie, tous ces mondes cachés, qui étaient en général après, on disait que c'était Dieu, c'était la possession. Il y a aussi des peurs, la folie, qui guette parfois Goya, donc il y a la folie dans le monde, et la folie aussi en lui, ce qui fait que cette idée des cauchemars, on la verra
tout à l'heure. Là-bas, tout à l'heure. Et voilà, d'ailleurs, justement, dans le grand sabbat de sorcière, vous avez ici, alors ça, ce sont toujours ces peintures noires, alors en espagnol, voilà, c'est Miguelas, je crois, où vous avez effectivement le grand bouc, ici, qui est effectivement le contraire du divin. C'est le grand bouc, le grand Satan, hein, que l'on va voir de nuit, qui est en train de présider à une sorte d'assemblée sous forme presque de galette, c'est pour ça que je te parle de composition, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un paysage, c'est une sorte de galette, de tas, d'hommes et de femmes, surtout des femmes, parce que c'est un sabbat de sorcières, quand je dis qu'ils sont agglomérés les unes aux autres, sans plus d'individualité, hein, comme une sorte de contrepoint total, on est dans l'inversion totale, on dirait d'un monde solaire, religieux, lumineux, joyeux, etc. Alors là, il bascule d'une sorte de témoignage de la vie dans ce qu'elle peut avoir de limite, et là, on bascule dans un monde intérieur, hein, le monde des cauchemars, le monde de la sorcellerie, le monde des fantasmes complets, où tout est inversé, effectivement. Et justement aussi le grand bouc. Le bouc, c'est aussi normalement une tradition de la sensualité, de la sexualité, d'un érotisme. Et là, ça devient effectivement quelque chose qui est associé, y compris, alors là je parlais des vieilles, à des femmes qui deviennent effectivement sorcières monstrueuses, hein, qui tout d'un coup sont très très loin des jeunes femmes au balcon, et qui se rapprochent plus des vieillards mangeant la soupe, etc. Alors là, il y a effectivement cette espèce de peur, alors, plus que de la misogynie, c'est peut-être une sorte de peur devant un univers féminin, hein, qui le trouble aussi, une sorte de grand ailleurs. Alors, c'est pour ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on trouve clairement chez les romantiques et les pré-romantiques, c'est la fascination pour l'ailleurs. Alors l'ailleurs, que ce soit la mort, que ce soit la mer, que ce soit le passé, que ce soit les astres, ou que ce soit parfois l'autre. Alors l'autre, c'est tout bête, quand vous êtes un homme ou une femme dans une société très genrée, l'autre, ça peut être l'autre genre, la femme ou l'homme. Hein. Donc si vous voulez, vous avez aussi l'altérité, après ça sera les cultures étrangères dans le romantisme, mais vous avez toujours, puisque si, le romantisme, c'est un peu la chute de l'art chrétien, de la culture chrétienne, et à partir de là, tout est repensé. Hein. Et là, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement puissant. Là encore, cette femme, alors là, c'est un peu plus... Elle est un peu moins ironique, ou moins dure. Hein. C'est Leocadia Doria, je crois que c'est un portrait, mais 1822, donc c'est le dernier portrait fait par... Et tu vois, la composition, aussi, elle est totalement décentrée. C'est-à-dire que, quand c'est centré, c'est une galette monstrueuse, mais le bouc est pour l'autre côté, il est pour le milieu. Et là, vous avez des zones entières de peinture pure. Ah, j'ai oublié de vous montrer le chien en train de mourir, mais vous connaissez le chien qui s'étouffe ? Non, alors je vous montre, parce qu'il est quand même top, celui-là. Et il est complètement dans cette idée, justement, de décentrement, et y compris de vie qui disparaît, de vie et de mort. Celle-ci est au Prado, et elle est peut-être, effectivement, je vous ai tenu, voilà. Et si, là, vous voyez le chien. Le chien est là, ensablé, et il est en train de...
Disparaître.
De disparaître dans la terre, et là, quand je parle de compassion, il a une compassion extraordinaire pour la vie. C'est que ce chien-là, il y a une émotion chez Goya, et qui éclaire. Donc finalement... La fascination qu'il a pour la vie, la mort, évidemment. Et ce chien semble disparaître dans la peinture. Et la peinture, on voit bien que c'est... Si vous regardez là, la peinture de Goya, ici, on peut dire que, allez, 80% de la peinture est non figurative.
Ouais.
C'est vraiment un... Et la peinture devient le sable ou devient l'air épais, etc. Et là, c'est la solitude totale. Il reste juste un regard et il croit encore. Il a encore un regard plein d'espérance, mais il est déjà totalement sombre. Il n'a pas conscience. Donc, l'identification à ce chien étouffé, c'est quelque chose. Donc, quand il voit les vieilles ou cette idée des ténèbres ou de l'enfouissement, comme tout lui est en sourd, évidemment, c'est quelque chose qui est avant tout de la sensibilité plus que de l'ironie ou de la moquerie ou de la méchanceté, etc. Il y a surtout une très très grande sensibilité à tout ce qui est vivant, même au-delà de l'humain, parce que le chien ici est évidemment, sauf que j'ai la flèche dessus. Donc, et là aussi, une composition décentrée, sans doute justement pour évoquer peut-être le mouvement, le déplacement, quelque chose qui est déstabilisé. Et là, l'aspect de mouvement de foule tout à l'heure, on le voyait aussi comme ça un petit peu. Alors, je continue là, attendez, c'est pas ici, j'ai ouvert deux trucs, c'est de quoi il y a. Là, voilà. Alors, à propos justement de la chair, ils sont pas très connus, il y a deux points. Ça c'est terrible, c'est des natures mortes de Goya, encore, foule des plumes, des poissons. Et donc là, justement, quand on parle, ça tombe bien que j'avais montré le chien, je vous le montre avant, parce que l'animal, là il y a une émotion avec l'animal. Alors, il n'y a pas l'espèce d'ironie distancée, presque intellectuelle qu'il y avait chez Chardin avec la raie, mais on est dans une nature morte, où là, le poulet plumé a une chair, a une peau qui est totalement humaine, c'est terrible. Y compris sa tête, j'ai presque dire son visage, et les sardines à côté qui luisent, et il est presque traîné, martyrisé, et en même temps grotesque, et c'est d'une force et d'une puissance terrible. Parce que là, son poulet, en plus, il est semblé tiré par les pattes, on ne sait pas où, etc. Donc là encore, même en faisant un poulet mort, Goya est capable, et il n'a même pas du tout une chair de poulet, c'est qu'il n'a pas de poulet, on a l'impression qu'il y a une boule lisse. Et là, pourquoi est-ce que Goya. Alors, vous voyez, cette crudité, cette capacité de la franchise que Goya a pour regarder et pour éprouver est absolument manifeste ici. Et alors là aussi, alors, celle-ci est terrible. Ah non, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est?
C'est joli.
Ça, c'est des
moulettes. C'était ici, normalement. Alors là, vous allez voir. Ça, c'est incroyable. Parce que là, vous avez les côtes, etc. Puis d'un côté, vous avez encore la tête du bois, qui a l'air de contempler, y compris sa carcasse, avec une sorte de conscience et l'air de dire, je ne suis pas tout à fait mort, attendez. Là, il y a encore une présence incroyable de la chair et du corps et de la mort. Et c'est pour ça que le lien avec Quetzal, avec toutes les autres peintures de Goya, on l'établit assez facilement, puisqu'il suffit de regarder un petit peu ces peintures ailleurs pour voir que qu'est-ce qui reste quand le corps est mort, hein, le corps qui disparaît. Parce que vous avez aussi le chien enfoui, là, ici, vous avez les femmes vieillissantes, etc., trois coups de corps, qu'est-ce qui devient. Dans les autres aussi, on voit presque que les visages qui sont agglomérés et qui semblent résister, c'est la seule chose qui émerge, des pays, comme ça, d'humains, des masses grouillantes, il y a quelques visages qui émergent. Et alors là, c'est l'occasion de travailler sur la chair, sur les carnations, sur les rouges. Et la peinture aussi, elle devient matière. Alors là, il y a un point avec Chardin. C'est la peinture épaisse.
Mais il est vendu, cette peinture.
Alors, ça, ce sont sans doute des études.
Elle est bouchée, hein. Ça ne donne pas envie d'en avoir chez soi.
Alors, on va voir justement. Ça, justement. Voilà, en fait. Là, c'est chez Goya. Ça, c'est des peintures qui ne vendaient pas. C'est une reconstitution de la Quinta del Sordo, la maison du sourd. Et en fait, il vivait entouré de ces peintures noires vers la fin de sa vie. En fait, c'était vraiment une peinture à usage interne et vivait au milieu de ces peintures. Là, vous reconnaissez, alors il y a celle-ci, on la verra plus tard. Vous avez la Zora, etc. Vous avez les deux vieux ici. Vous avez ceux qui mangent la soupe. Vous avez le chien là. Vous avez Saturne dévorant son fils. Vous avez le grand sabbat de sorcière. Et vous avez la fête de Saint Isidro qu'on verra plus tard. Et puis, etc. Donc, vous voyez que ça, c'est sur deux niveaux. Il vit. Là, c'est une peinture, quand on dit incarné, c'est-à-dire que la chair au sens strict, c'est qu'il vit dans sa peinture, et sa peinture vit de lui. Il est dans sa peinture, dans tous les sens du terme. La peinture est dedans, mais il est au milieu de ses propres peintures. Là, vraiment, c'est la distance, il n'y en a pas. Hein? Et quand je parle de témoignage chez Goya, c'est qu'il n'y a pas de distance. Il est, quand on parle de frontalité, c'est quelqu'un qui est là, le corps, vraiment au sens strict.
Est-ce qu'on peut utiliser le mot mortifère?
Oui, on peut. Ah, oui. Et le voilà, à peu près un peu avant, 1815, avec les cheveux noirs. En fait. Donc, alors, et voilà Goya. Voilà Goya. Goya plus jeune. Alors, c'est pas Goya, c'est justement Goya, bah, quand il arrive, en fait. Bon, encore que là, j'exagère un petit peu, c'est un peu plus tardif. Mais attendez. C'est 180. Voilà. 1775, quand Goya est jeune, donc, 30 ou 40 ans avant, quand il arrive à la cour d'Espagne, comme il est virtuose, il est brillant, etc., sa fonction essentielle, ça sera de préparer des grands cartons de tapisserie, pour les décorations des palais, etc. Et ces cartons de tapisserie, alors il y en a, j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, vous allez regarder aussi, et grâce aux nouvelles technologies, etc., vous avez des définitions assez extraordinaires. Alors, les cartons de tapisserie ont une très grande virtuosité. Alors là, on est dans des scènes agréables, on est dans des choses qui sont plaisantes, on est justement dans une scène de décoration, et mais à chaque fois, vous allez retrouver cette espèce de franchise, là, il y a de la fraîcheur, il y a une empathie, on est dans des scènes vivantes. Là, c'est la scène de la canne à pêche. Hein. Alors, autre chose, comme ce sont pour des cartons de tapisserie, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, comme c'est un carton de tapisserie, c'est qu'il y a une certaine liberté. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, tout ce qui est fait de matière, etc., ça traduit par le fil et la tapisserie. Donc, si vous voulez, celui qui fait le carton de tapisserie donne essentiellement des indications de couleur, de ton, de dégradé, de modelé, de composition. Mais les effets de touche, il est relativement libre, puisque ce n'est pas ça qu'on va regarder. Donc, si vous voulez, ça donne aussi, avec Goya, là aussi, c'est un grand apprentissage de liberté, puisque finalement, sa peinture n'est qu'une étape de l'œuvre. Et on sait très bien qu'en général, toutes les étapes sont des moments privilégiés de liberté. Les brouillons, les ébauches, les études, les carnets, les préparations, les répétitions, etc. On se sent plus libre. Ce qui est parfois terrifiant, c'est le fait d'aller dans une phase aboutie, etc. Alors, Goya, voilà, alors à chaque fois, ça se fait dans les années 70, donc on est là des gens qui jouent au parc. Alors, le milieu populaire qui va être quand même dans un quartier, c'est aussi quelque chose qui est assez proche de Goya, quelque chose qu'il connaît bien, des gens ici qui jouent aux cartes. Hein. Vous avez ici le jeu du cerf-volant, avec une sorte de. Une société qui est proche de la cour, donc c'est un peu les serviteurs, les servants, etc. C'est pas les paysans pauvres, on est une sorte de à laquelle ils s'identifient bien, il n'y a pas de problème, on est dans un monde relativement protégé. Goya lui-même se sent très à l'aise là-dedans. Une sorte d'ascension sociale, il est du milieu pauvre et simple, il arrive à la cour, il est peintre, et en gros, les serviteurs, les gens qui travaillent autour des princes, eux aussi, finalement, sont des gens du milieu populaire, mais ne sont pas dans la misère, etc. On avait une certaine joie que Goya traduit par des couleurs très vives, des jaunes, des bleus, des rouges, des corps bien campés, et quelque chose de très élégant et gracieux. Le monde de l'enfance, alors c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça, que l'on ne trouvera quasiment plus jamais. Le monde de l'enfance qu'on a vu chez Chardin et qu'on a vu aussi chez Watteau. Hein. Vous avez ça aussi, une sorte de redécouverte du monde de l'enfance, une certaine fraîcheur, là encore, qui va disparaître chez lui. Au contraire, c'est quelque chose qui sera totalement perdu avec les vieilles. Et là, des jeunes en train de cueillir des fruits avec un jeu. Alors, on va faire assez souvent ce monde de l'enfance. On va voir aussi des jeunes qui jouent aux soldats. Alors, c'est avant, évidemment, la guerre d'Espagne avec les troupes françaises, où tout d'un coup, on joue aux soldats, on joue à la guerre. Là encore, innocence, les couleurs premières, mais les couleurs primaires, toujours des cieux très ouverts et dégagés, c'est le contrepoint total de ces peintures noires. Mais il y a un point commun, c'est les corps, qui sont au premier plan, et qui sont quand même bien campés. Là, ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont colorés, mais ils sont là. C'est-à-dire, Goya a toujours ce manque de distance recherché par lui, cette présence des corps qui est très clairement campée ici. Celui-ci est un des plus connus, justement, le parasol, à peu près 1780, je crois, où là, justement, regardez l'incarnation, cette femme, ses couleurs, son serviteur, ici, son jeune serviteur qui lui fait une ombre avec une couleur céladon, un vert céladon remarquable de ce parasol qui fait une ombre colorée, l'élégance aussi du paysage derrière, et le premier plan, elle est vraiment devant, elle est vraiment là, et aussi, regardez, l'incarnation des joues, le sourire, et aussi l'intimité. Alors, structure pyramidale, un léger vent, et là encore. Alors là, très bonne définition. Ce que l'on voit quand même, c'est que Goya, est-ce que c'est là qu'il a appris à peindre vite et bien? Peut-être. Parce que si vous voulez, il faut les cartons, hein, il en a fait plein. Et, ça, et puis en plus, c'est très grand. Hein, parce que les cartons d'épicerie ont vocation à être à l'échelle du mur. Donc vous avez aussi cette idée de la trace, du geste. On est parlant de la fresque, si vous voulez, y compris au niveau de la virtuosité et de la manière de peindre. Donc cette manière franche et rapide de peindre, qui est virtuose ici, eh bien, c'est peut-être avec ces grands cartons de tapisserie que Goya l'a apprise. Là encore, le monde des enfants, alors. J'ai trouvé un site, non, celui-là n'est pas de bonne qualité, mais il y a un site où il n'y en avait pas qui était remarquable. Alors, le musicien. Le musicien, alors, on a vu les musiciens plusieurs fois. Alors, évidemment, en Espagne, ça. Vous voyez, structure. Alors, vous voyez aussi, c'est que ça soit Chardin, que ça soit Fragonard, que ça soit Goya. Vous voyez qu'il y a quand même des règles, hein, la composition en triangle, lumière de gauche, ombre à droite, des compositions de ce genre, les couleurs primaires pour donner le genre, donc voilà, une tonalité à peu près, une sorte de chromatisme à peu près complet. On va jouer sur les couleurs primaires, comme on le voit ici. Là encore, là aussi c'est assez rigolo, parce que c'est des thèmes qu'on a vu, les enfants, le monde de l'enfance associé à des choses qui sont aussi fragiles, éphémères. Alors on a vu le cerf-volant, la bulle de gonflée, les chapeaux de cartes, ici la vessie de porc que l'on gonfle. Hein, donc c'est aussi quelque chose de le jeu, l'insouciance. Et on voit bien l'évolution. Alors, je termine là-dessus. Enfin, je termine pas sur Goya, on continuera. C'est le portrait de Charles III, le roi. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le roi. C'est que Goya fréquente la cour et il voit le roi ben, comme un homme, comme un humain. Quand on, si on compare les portraits de Louis XV, de Louis XIII, de Louis XIV, Louis XIV, Louis XV, lui, c'est le roi solide. Là, vous avez un individu qui est qui a l'air un peu fragile, qui ne se tient pas très bien, qui a les voûtés, qui a un air un petit peu sot, etc. Mais Goya le fait avec encore une grande humanité. C'est qu'en fait, c'est pas de l'ironie, c'est pas de côté, et puis ça rentre dans la catégorie intellectuelle de la représentation du corps du roi, qui en Espagne est assez clair, c'est que le roi n'a pas besoin d'être un humain fort, ni beau, ni séduisant, parce qu'il est le roi. À lui, il peut très bien avoir l'air débile, c'est pas grave, c'est le roi. Donc le roi n'est pas de la même catégorie. Donc, le roi peut très bien être fragile et faible, physiquement, puisque sa force, c'est pas d'être un être humain fort, et etc. C'est d'être le roi. Et donc d'avoir les attributs du roi, c'est-à-dire les cordons, etc., la chasse, la dague, les gants, etc., et de dominer le paysage, de dominer le territoire. Et là où c'est assez drôle, et puis je termine là-dessus, c'est justement, on a chez Goya cette espèce de lucidité, alors il s'appelle Lucientes, Goya et Lucientes, donc il y a un rapport à la lumière et à la lucidité chez lui, cette idée que finalement, bah, lui aussi, il voit les gens tels qu'ils sont, qu'ils soient rois ou pas, et donc cette espèce de franchise fait aussi son succès, c'est que le roi et la cour reconnaissent dans son regard une vérité, qui est, mais il est à la frontière aussi, toujours, il est toujours à la frontière de l'ironie, de la franchise, de la sincérité, mais avant tout, c'est de l'empathie. Alors, on continuera à l'année prochaine. Donc, toujours, on prendra Goya, parce que, et de toute façon, entre Goya, David, tout ça, on va être toujours dans les mêmes périodes.